Les pérégrinations néo-rétro-culturelles de toi, mon cher Camille, et où est-ce qu'elles nous emmènent aujourd'hui?
Alors, il y a deux semaines, on était en Italie, cette fois-ci, on retourne au Japon et on va parler de l'histoire d'une des plus grandes mangaka, à savoir Rumiko Takahashi. Voilà. Donc, normalement, ça vous cause un petit peu comme nom.
Non, moi, non.
Pas du tout.
Pas du tout.
Non.
Ouais, c'est okay. Ah, ce qu'elle fait, ça va vous parler, ouais.
Je pense.
Alors, du coup, on va commencer notre histoire en 1957. Donc, dans les salles, Frankenstein s'est échappé pour aller voir l'avant-dernier film de Chaplin, bien sûr. Donc, Un roi à New York. Dans les bacs, quand Davina chante Bambino, Elvis répond Joyous Rock. Sur les petits écrans, les ricains découvrent Zoro. Rumiko Takahashi, elle est donc née dans la préfecture de Niigata. Alors, elle est très très vite passionnée par le manga et elle va se mettre à beaucoup dessiner, si bien que quelques années plus tard, alors qu'elle est au lycée, elle va proposer son premier manga à un magazine. À l'époque, son dessin il est très très proche de celui de Ryoichi Ikegami, auteur légendaire du coup de Crying Freeman et accessoirement co-scénariste et dessinateur du premier manga de Spider-Man en 70.
Oh.
Le monsieur il connaît un petit peu. On avait déjà parlé de lui parce que c'est un des élèves de Shigeru Mizuki, dont on a parlé il y a quelques semaines. Ouais. Quelques années plus tard, alors qu'elle fait ses études à Todai, pour situer un peu, Todai c'est l'université de Tokyo et c'est l'université la plus connue et prestigieuse de tout le Japon. Ça va, sympathique. Elle s'inscrit à Gekika Sanjuku, donc qui est une école de manga fondée et gérée par Kazuo Koike. Qui c'est Kazuo Koike? C'est accessoirement le scénariste de manga qui travaillera notamment sur Crying Freeman, sur Lone Wolf and Cub et ou encore sur Hanope Bazooka avec rien de plus que Go Nagai, le papa de Devilman et Goldorak.
C'est bon, en fait, c'est des belles personnes qui sont réunies au même endroit, quoi.
Voilà, c'est ça. Ça fait des gens un peu connus qui bossent avec des gens un peu beaucoup connus, quoi. Mais pour revenir à notre histoire, sur ses conseils, du coup, elle va commencer à travailler et à publier des doujinshi en 1975. Donc, si jamais vous n'êtes pas très très familier avec le secteur, les doujinshi, c'est des recueils édités en amateur pour présenter son travail. C'est ce qu'on appelle plutôt chez nous les fanzines. Okay. On utilisait beaucoup ce nom il y a quelques années. 1978. Deux salles de ambiance, Grise ou Les Bronzés. Voilà, dans les bacs, Ça plane pour moi, peuvent chanter Toto et Dire Straits. À la TV, Goldorak et Starsky & Hutch. Grande année. La jeune Rumiko travaille avec le magazine qui s'appelle Weekly Shonen Sunday, chez qui elle va écrire d'abord deux histoires courtes, puis son premier grand succès qui s'appelle Urusei Yatsura. C'est l'histoire loufoque d'un extraterrestre qui s'amourache pour un terrien feignant, pervers et malchanceux. Donc on va jouer à un petit jeu ensemble, et à chaque fois que je vais vous donner un nom de manga en japonais, vous allez essayer de trouver comment il s'appelle chez nous. Ouais, voilà.
Ok.
Oh là.
Donc pour Urusei Yatsura, vous me dites quoi? Qu'est-ce que ça pourrait être ton titre?
T'as pas tu peux nous correspondre à des années, peut-être ça peut nous aider
peu. Là, on est en 1978.
Ah bah alors là.
Alors, chez nous, c'est arrivé au début des années 80, je crois.
Ouais, moi, tout ce qui est avant 80.
Tu peux après.
Non, j'ai pas idée là, je sais pas, ouais.
J'étais pas né. Ah.
Alors, chez nous, ils l'ont réduit en fait uniquement au prénom de l'héroïne.
Ah, alors attends. Oh, mais attends, mais il y a 50 000 prénoms à début des années 80.
Elle a les cheveux avec généralement les cheveux bleus et elle a souvent des habits en version léopard.
Ah, c'est pas Lamu, non?
Si, bravo. Ah, chez nous, elle s'appelle Lamu.
Ah, merci, Jordi Grenier.
Voilà. Alors pourquoi Lamu, j'en sais rien. Malheureusement, tenir le rythme d'une série hebdomadaire à l'époque, c'est assez compliqué pour elle et va souvent rendre ses planches en retard. Les gens te racontent même qu'à l'époque, elle vit dans un tout petit appartement où elle doit dormir dans le placard parce qu'elle manque de place pour mettre les assistants et tout le travail.
C'est quoi, voilà. Dormir dans un placard quand même.
C'est pas de chance.
La vie parisienne, quoi, en gros.
Ouais, voilà.
Après, les chambres japonaises, c'est pas grand, de toute façon.
Ils sont pas grands.
Non, mais là, je pense surtout que l'appartement était vraiment très, très, très petit. 1980, dans les salles La Boom et The Blues Brothers, mais y a-t-il un pilote dans l'avion? Une bonne année ça. Dans les bacs, c'est le Banana Split, parce qu'il jouait du piano debout, et il peut dire t'es ok. À la télé, c'est Tom Sawyer qui débarque.
Ah ouais?
Rumiko parvient enfin à trouver le bon rythme de travail pour rendre ses planches à l'heure, il était temps. Du coup, pourquoi se contenter de faire un seul manga à la fois? Après tout, quand on peut en faire deux? C'est comme ça qu'elle a commencé Maison Ikkoku dans le magazine Big Comic Spirits pour un public qui est beaucoup plus adulte. Donc pour vous, Maison Ikkoku, alors sachant que chez nous ça a été adapté aussi, évidemment.
En anime aussi.
En français, ça s'appelle comment? Ouais.
Alors bah dis-nous le pitch du coup pour qu'on puisse essayer de deviner.
Ça raconte l'histoire d'un étudiant raté qui pense quitter la pension dans laquelle il vit jusqu'au jour de l'arrivée de la... Ouais, bravo.
Ah, il l'a eu.
Chez nous, ça s'appelle Juliette Jotterme.
Un point chacun.
La pension, c'est ça qui m'a aidé.
C'est ça. Bah,
j'ai pas
la
vu.
Pension des Mimosas en
Juliette,
français d'ailleurs.
Ouais.
Exactement, chanté par Bernard Minet.
Ouais, bah il a chanté à l'époque, de toute façon, Bernard.
Du coup, pour la suite du pitch, jusqu'à l'arrivée de la nouvelle concierge, la sublime Kyoko Otonashi en japonais, déjà veuve alors qu'elle n'a que 20 ans. Un titre qui sera du coup succès, qui aura beaucoup de succès, voilà, avec en 1981, du coup on va continuer un petit peu notre histoire. On va avoir une première adaptation de Urusei Yatsura pour 195 épisodes, puis 12 OAV et 6 films d'animation. Voilà, pas mal. Je vous fais pas toutes les années parce que sinon on va y passer vite. Hein. En 1984, elle va reprendre ses histoires courtes et elle va commencer encore un nouveau titre qu'elle continuera de temps en temps qui s'appelle Mermaid Saga, qui existera également chez nous. Est-ce que vous avez une idée du titre en français ?
Alors, celui-là, il est Mermaid, pas facile. C'est une sirène.
Ouais.
Du coup, le pitch ?
C'est un conte noir et mélancolique qui nous raconte l'histoire de Yuta, un homme devenu immortel après avoir mangé la chair d'une sirène.
Alors là...
Il s'appelle Mermaid Forest.
Ah non, bah...
Alors, connais pas.
Voilà. Il est sorti beaucoup plus tard, s'il est vrai. Elle a vraiment mis longtemps à le terminer, celui-ci.
Ok, bon.
Alors, c'est un titre qui change quand même beaucoup l'ambiance comédie romantique par rapport à ce qu'elle avait fait d'avant, quoi. En 1986, du coup, c'est au tour de Maison et Coco d'être adapté en animé, donc Juliette, je t'aime, avec 96 épisodes, 2 OAV, 2 films et un drama. 1987, dans les salles Full Metal Jacket ou alors Dirty Dancing. Voilà, on a le choix, hein. Dans les vagues, Goldman voit la vie par procuration pendant que Europe est déjà The Final Countdown. À la TV, la roue de la fortune, la classe ou Turbo, chacun son choix. C'est la fin pour Urusei Yatsura après 34 tomes condensés chez nous en 18 par Glénat, puis aussi pour Maison Ikkoku en 15 tomes chez Delcourt Tonkam et ressorti il y a quelques années. Voilà, Urusei Yatsura, ils ont ressorti que les deux premiers d'ailleurs.
Tu peux m'expliquer comment on condense en 18, c'est-à-dire que en fait c'est plus épais, c'est ça, il y a plus
ils collent les tomes simplement.
Ouais.
Ils avaient commencé à ressortir des éditions collector et il y a deux tomes de l'édition collector qui sont sortis, mais je sais pas ce qu'ils adaptent parce que t'adaptes pas 34 en deux tomes. Donc j'en sais rien. Mais apparemment, c'est fini quand même. Maintenant qu'elle a du temps libre, Rumiko lance évidemment une nouvelle série. Voilà, l'histoire saugrenue d'un garçon qui peut se changer en fille lorsqu'il entre en contact avec de l'eau.
Ramener un demi.
Voilà, ah évidemment.
Mais... pas assez vite.
Pas facile celle-ci. Une comédie romantique qui s'accroche à la mode du manga d'arts martiaux pour nous livrer une comédie romantique toujours aussi agréable, même 30 ans plus tard. Je me la suis fait il y a encore pas si longtemps que ça et j'ai envie de recommencer dès que j'en parle. Voilà, donc Ranma qui sera adapté en 1989 pour 161 épisodes.
C'est fou, hein.
Ah, c'est génial, vraiment.
J'ai pas tout vu, moi, en vrai. J'ai vu quelques épisodes.
J'ai pas vu toute la suite. Par contre, j'ai vraiment mangé les 161 et... comme au premier jour. 2 OAV, 3 films, un drama et 14 adaptations en jeux vidéo d'une réussite plus ou moins discutable.
Il y a eu 14 jeux vidéo Ranma ?
Ouais, mais tu les as pas vu passer. Hein.
Ouais. Bah, c'est-à-dire que le seul qu'on a eu chez nous, c'est un jeu de combat et le jeu il triche.
Ah ouais, moi je m'en souviens d'un seul.
Voilà. Et ben,
tout le reste, c'est des dérivés Tetris ou plus ou moins copier-coller d'autres jeux. Quoi. Mais c'est pas tout, car Rumiko déteste faire une seule chose à la fois. Donc en 1989, elle va également commencer un nouveau titre qui s'appelle One Pound Gospel. Celui-ci, il n'existe pas chez nous. Oh. Donc c'est un titre en 4 tomes qui nous parle cette fois de boxe. Voilà, elle sera tout de même adaptée en un OAV et en drama. 1996, dans les salles Mars Attack et Mission Impossible. De quoi rappeler à Ophélie Winter que Dieu m'a donné la foi. Heureusement que Boris répond soirée disco. Vite, appelez les Spice Girls à la télé, c'est la fin pour Ushuaïa et le début de XXL. Alors, à votre avis, XXL, c'est quoi ?
Non, je n'ai pas d'idée.
Alors, c'est pas Asterix XXL, au cas où, c'est pas lui.
Alors, ouais, attends, qu'est-ce qu'on cherche ?
C'est pas un truc de X ?
Ah, bah si, bravo.
Ah, bah voilà.
C'est la première chaîne pornographique de France sur le câble.
Pourquoi pas,
hein. Une info comme une autre. Hein. Ranma 1,5 s'est terminé après 38 tomes, voilà, dispo chez Glénat, également ressorti il n'y a pas très longtemps en double tome. Ils sont très bien d'ailleurs. Du coup, elle va enchaîner directement avec sa nouvelle saga qui s'appelle Inuyasha, dont le nom français est Inuyasha. Voilà.
Bon, voilà. C'est je me dis, bah, je connais.
Il n'y a pas de piège.
Je me disais, il y a un piège.
Bah, c'est Inuyasha.
Voilà, pour le coup, celui-là, c'est bon. Dès fin des années 90,
mais j'ai vite décroché. Je sais pas.
J'ai beaucoup, beaucoup aimé, moi.
J'ai regardé le début, j'ai tout l'animé, mais faut que je me remette.
Ouais, il y a un moment où c'est très long au milieu. Hein. Par contre, une fois que tu l'as passé, tu manges jusqu'à la fin, c'est terrible. Kagome Igorashi, jeune lycéenne de 15 ans, vit auprès de sa famille dans un temple à Tokyo. Un jour, elle est happée dans le puits dit dévoreur d'os de la chapelle Shinto du temple par un démon qui se retrouve propulsé à l'époque Sengoku. Donc, je rappelle, Sengoku, c'est les 150 années qui sont passées juste avant l'année 1600, donc la grande bataille de Sekigahara, peuplée de créatures démoniaques et de monstres, les yokai dont on avait déjà parlé. Elle réveille alors un agneau qui s'appelle Inuyasha, qui est donc un être mi-démon, mi-humain, qui est déjà scellé contre un arbre depuis 50 ans, pour avoir tenté de dérober la perle de Shikon, ou Shikon Nitama en japonais. Cette perle au pouvoir mystérieux qui va être la source des péripéties à venir de ce duo, que j'aime énormément, voilà. Un titre qui nous parle donc évidemment beaucoup de la mythologie japonaise, et qui finalement se rapproche pas mal du travail de Shigeru Mizuki, on a beaucoup parlé. Voilà, pour moi, c'est un petit peu une suite spirituelle, d'ailleurs, à ce qu'il a fait.
D'ailleurs, les yokai, on en a parlé quand on a parlé Mizuki.
Oui, bah, c'est lui qui les a réintroduits dans la culture japonaise. Donc, sans Shigeru Mizuki, il n'y a pas d'Inuyasha. Un titre qui nous parle, il sera adapté du coup en 2000 pour un premier animé dont on parlait de 167 épisodes, 4 films d'animation qui sont très très bien d'ailleurs, très bien vieillis, et un nouvel animé en 26 épisodes en 2009. Finalement du coup le manga va se terminer en 2008 avec 56 tomes chez Kana qui ont été réimprimés récemment puisque ça faisait un moment qu'on ne pouvait plus les trouver. Mais qui dit fin de série dit évidemment nouvelle série, donc elle va commencer Rinne. Voilà, un titre qu'elle commence en 2009 et qu'elle terminera en 2017 après 40 tomes.
Oula.
Bien les séries courtes. Alors, Rinne, je ne vous ai pas fait le synopsis parce que c'est, on va dire, beaucoup plus récent. On va dire que c'est moins classique. Voilà. Il y a moins de gens qui ont grandi avec. Autant tout ce qu'il y a eu avant, je pense
c'est le même
nom
chez nous, de toute façon.
Tout le monde les connaît.
Mais c'est arrivé
c'est
chez
le même
nous,
nom, ouais. Ouais, oui, c'est chez nous, bien sûr. C'est chez Kaze. Adapté en animé à partir de 2015 pour 3 saisons de 25 épisodes quand même. Hein.
Ça bosse. Hein.
Voilà. Après, elle va prendre une petite pause bien méritée jusqu'en 2019 où elle va attaquer son titre actuel qui s'appelle Mao, qui est toujours en cours chez Glénat avec 18 tomes. Elle bosse un peu, elle s'arrête jamais en fait. Voilà, mais c'est pas tout puisque l'Europe est plus précisément Angoulême qui a lieu en ce moment. Voilà, j'ai bien choisi. Le festival de la bande dessinée. C'est en cours là actuellement, qui récompense enfin ses décennies de travail après l'avoir critiqué pendant des décennies. Voilà, ils ont un peu dit que les mangas c'était de la merde pendant 40 ans, il était grand temps quand même un peu d'arrêter de faire n'importe quoi. Voilà, enfin en 2020 va sortir la suite originale de Inuyasha qui s'appelle Anyo no Yashahime Sengoku Otogizo Oshi chez Crunchyroll pour 2 saisons de 24 épisodes.
Ils aiment quand même les titres qu'ils font, en fait c'est une passion qu'ils ont avec toi pour les titres de chronique, c'est que les noms à rallonge.
Alors là, c'est un petit peu particulier, pour le coup, c'est un animé original, c'est-à-dire que c'est pas tiré d'un manga. A savoir que cet animé, qui est du coup la suite spirituelle d'Inuyasha, il a été adapté en manga après par quelqu'un qui s'appelle Shiina Takahashi pour actuellement 5 tomes uniquement au Japon. Voilà, chez nous, ça nous intéresse pas apparemment. Bref, ce qui marque le plus dans la carrière incroyable de Rumiko Takahashi, c'est le côté générationnel. Pardon. Peu importe votre âge, absolument tout le monde a grandi avec une ou plusieurs de ses œuvres. Et cela, absolument dans le monde entier. Actuellement, vous allez à l'autre bout du monde, vous dites Ranma 1/2, les gens y connaissent. C'est une dinguerie.
Mais c'est complètement fou qu'elle soit pas plus célèbre elle-même d'ailleurs. Parce que moi, je connais très bien ses œuvres en fait, mais elle, je la connaissais pas.
Alors elle est très discrète, ouais. Alors, malgré le temps monstrueux que l'Occident a mis à reconnaître son talent, elle a tout de même à l'origine, de plus de 205 tomes de manga, 768 épisodes d'animé, sans compter les OAV, les films, les jeux, les produits dérivés, qui comptent en centaines depuis 78.
En vrai, hein, les gens connus, t'as 3-4 mangas ultra populaires sur la planète.
T'as Akira Toriyama, Eiichiro Oda et...
Masashi Kishimoto.
On va parler un petit peu justement de ça, c'est qu'avec la quantité de produits monstrueux que ça représente, puisque forcément elle les vend au Japon, elle les vend en France, mais elle les vend aussi partout dans le monde, ça va faire d'elle une des mangaka les plus riches du monde, avec plus de 70 millions d'euros de côté, pour à peu près 11 millions de gains par an. Voilà, après, c'est plus ou moins de la légende urbaine, hein, parce que c'est une fortune dont on parle souvent, mais elle a vraiment tenu, depuis toutes ces années, à rester extrêmement discrète et donne absolument, par exemple, aucune photo d'elle actuelle. Toutes les photos que vous avez d'elle, elles ont plus de 10 ans à chaque fois. Il y a beaucoup de rumeurs sur sa fortune, etc. Et finalement, elle ne montre absolument jamais rien, contrairement à d'autres qui vont aller faire un petit tour de leur baraque dans lequel ils vont dépenser des sommes monstrueuses pour faire des trucs débiles, parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire de leur thune, tout simplement. Voilà, donc quelqu'un dont... je pense qu'on devait parler. Au moins, ça remet un peu la parité. On a parlé de deux mangaka hommes, une mangaka femme.
C'est cool,
moi
j'aime bien les personnalités que tu nous présentes. Des fois, des personnalités peu connues, mais où leurs œuvres sont connues. Et des fois, des personnalités qu'on... Tu vas direct le nom, tu vas le reconnaître, mais tu vas te dire « Ah ouais, c'est lui qui est derrière tout ça ?»